Aujourd'hui, je suis à Ambermesnil où je rencontre François Bir, qui est président du comité Grégoire.
N'oubliez pas le guide, Pascal Michotte.
Il y a ici donc le musée de l'abbé Grégoire, ici à Ambermesnil. Racontez-nous déjà, si vous le voulez bien, le pourquoi de ce musée, l'histoire de ce musée. Il est là depuis combien de temps ?
Bon, le musée a été inauguré en septembre 1994 et ouvert au public en mars 1995. Bon, ce musée a été créé suite aux quelques cérémonies qui ont suivi les célébrations du bicentenaire de la Révolution française. Le MRAP était venu nous trouver en nous disant « Que faites-vous pour 89, vous qui avez eu un personnage qui s'est illustré sous la Révolution ?» Bon, au début, donc, en 89, on a inauguré la stèle aux droits de l'homme, hein, qui se trouve devant l'église, inaugurée par Laurent Fabius, Jean-Noël Jeannonet, et je me plais toujours à citer un troisième personnage, Monseigneur Bernard, évêque de Toul et de Nancy, qui a voulu prendre la parole ce jour-là.
Alors, vous étiez quoi ? Vous étiez un groupe à l'initiative du désir de faire cette maison ?
Bon, il faut dire qu'au départ, déjà avec la collecte de fonds pour inaugurer la stèle aux droits de l'homme, qui a coûté près de 10 millions d'anciens francs, nous avons été aidés par Michel Caffier, qui à l'époque était rédacteur en chef adjoint de l'Est républicain. Il nous avait mis une souscription dans les 18 ou 19 départements où paraît le journal. Voilà.
Alors, qui est à l'initiative du désir de faire ce musée ?
Oh, ben là, il y a eu un peu, c'était le conseil municipal. Le maire était déjà Jean-Paul Martin. Comme étant son premier adjoint, il m'avait délégué aux affaires du bicentenaire de la Révolution. Donc nous avons fait des réunions où on s'est concerté en mairie, et puis on s'est dit, ben oui, mais on n'a rien à exposer, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors il y avait bien quelques petits garages, un préau, un débarras où la commune rangeait ses outils, avec des petites ouvertures rectangulaires. Alors on s'est dit, si dans ces ouvertures rectangulaires, on faisait fabriquer, placer des petits vitraux qui, telle une bande dessinée, évoqueraient l'œuvre et la vie de ce personnage. C'est donc ce qui s'est fait. Alors aujourd'hui, au travers de 12 vitraux, bien les guides commandent aisément la vie et l'œuvre du personnage.
Qui est à l'origine de ces vitraux ?
Ah, disons que ces vitraux, les cartons, hein, c'est ce que les peintres appellent dans leur jargon, des cartons. Les cartons sont de Charles-Henri Gérardin. Gérardin était à l'époque sous-directeur au collège Le Haut du Pénois à Vendeuvre-les-Nancy. Il avait, si on peut dire, trois qualités. Une, il était peintre, il avait exposé à Varsovie ainsi qu'à Madrid. La deuxième qualité qu'il avait, il avait de très grandes connaissances en verrerie d'art, puisqu'après la guerre, il avait travaillé chez Maître Schuller à Saint-Avold. Et la troisième qualité qu'il avait, bien qu'étant profondément laïque, il avait une grande admiration pour l'œuvre et le curé d'Ambermesnil.
Alors effectivement, là dans ce musée, j'ai pu admirer tous ces vitraux qui effectivement sont un excellent support à la découverte de la vie justement de l'abbé Henri Grégoire. En ce qui concerne les autres documents, vous avez fait comment ?
Il y a des chaînes d'esclaves authentiques, par exemple.
Alors d'où elles viennent ces chaînes ?
Alors ces chaînes, elles viennent des Antilles. C'est un Anglais qui se les a procurées là-bas, qui en a fait don, ou cadeau si vous voulez, à un ami parisien, un monsieur de la communauté juive de Paris, monsieur Marcel Bernfeld. Et j'ai rencontré au cours de divers déplacements à Paris ce fameux monsieur Bernfeld, qui était un ancien avocat, hein, qui donnait des cours à la Sorbonne, et qui m'a dit « Oh, monsieur Bir, j'ai deux pièces authentiques que je peux léguer au musée ». Donc il nous a fait don de ces chaînes d'esclaves, ainsi que du fouet du maître de maison. Le fouet du maître de maison, c'est ni plus ni moins qu'un nerf de bœuf.
Alors, ça c'est pour les objets, enfin une partie des objets. Il y a aussi beaucoup de documents.
Oui, avant d'arriver à la bibliothèque, je vais dire, il y a un magnifique buste en bronze que j'ai pu acquérir au cours d'une vente à Besançon. Et c'est un buste qui a été coulé par Pierre-Jean David, dit David d'Angers. Donc du vivant de l'abbé Grégoire. Voilà. Bon, ce buste a quand même, représente quand même une certaine valeur, je pense. La bibliothèque. Bon, nous avons en tout, dans nos trois armoires, dans nos trois vitrines, un peu plus de 700 ouvrages et autres documents. Ça peut être des discours ou des décrets qui ont été faits ou réalisés, dits par Henri Grégoire. Voilà. Dans ces ouvrages, il y a quelques ouvrages d'époque, de la Révolution, qui sont de l'abbé Grégoire lui-même, mais c'est difficile à trouver, à acheter. On n'en trouve que très rarement sur le marché, et encore auprès de libraires qui ne font que l'ouvrage ancien.
N'oubliez pas le guide avec Pascal Michotte.
Nous continuons notre visite de ce musée avec François Bir, donc qui est président du comité Grégoire. Alors Henri Grégoire, François Bir, on va pas tout raconter parce que justement l'intérêt c'est de suivre une visite guidée que je viens de suivre pour ma part avec grand plaisir. Henri Grégoire est donc né en 1750, il est mort en 1831. Il a vécu plus de 80 ans. C'est un homme très très important, probablement, je dirais, méconnu.
Oui, très très méconnu. Je pense que ça provient d'un côté parce qu'il était religieux, qui n'a jamais été admis par le haut clergé. Dans ma jeunesse, je parlais de Grégoire à maman, c'était tabou. Il ne fallait pas évoquer le nom de ce personnage-là.
Pourquoi ?
Parce que c'était un curé qui s'était mêlé de politique et d'autres choses que les gens ne connaissaient pas à l'époque. Ils ne connaissaient pas la vérité sur ce qu'il avait réalisé. Voilà. Et puis, d'autre part, pour moi, Grégoire, c'est une des plus belles figures que l'humanité ait produites. Au même titre que Léonard de Vinci, que Pasteur ou d'autres personnes célèbres.
Alors, on peut dire que c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent, probablement même génial, quand on découvre à quel point il s'est intéressé à beaucoup, beaucoup de domaines, quand on découvre le nombre des combats qu'il a menés, quand on découvre le nombre d'initiatives qu'il a prises, on se dit que c'est impressionnant qu'il y ait un seul homme à l'origine de tout ça.
Oui, très intelligent au départ, ça c'est vrai. Grégoire dans sa vie va parler 10 langues, il va les parler couramment et les écrire presque aussi couramment, sauf l'hébreu. Or ces 10 langues c'est quoi ? C'est l'allemand, l'anglais, le danois qu'il apprend après l'âge de 52 ans, le grec, l'italien, le latin puisqu'il est un religieux, le français, il a de très grandes connaissances en portugais, en espagnol, et quand il est curé d'Ambermesnil, de temps à autre il prend son cheval pour aller apprendre l'hébreu à Senone, là où autrefois était Don Calmet.
Alors il est né à Veo.
Le 4 décembre 1750, baptisé par le chanoine Christophe, il va fréquenter l'école de Veo jusqu'à l'âge de 8 ans, mais à Veo l'école s'arrête là. Donc après il vient chez l'abbé Cherrier en Bermenil qui avait créé un petit collège, et là de 8 il va y rester jusqu'à l'âge de 14 ans avant d'aller chez les jésuites à Nancy. Voilà, quand il quitte les jésuites à Nancy, il va aller préparer l'ordination à Pont-à-Mousson, dans le grand collège messin du grand séminaire de Metz.
Alors, il sera d'ailleurs tellement, tellement précoce qu'il va falloir qu'il attende avant d'avoir le droit d'être ordonné à 25 ans.
Oui, Grégoire, très intelligent, va finir son cursus des études religieuses avec 2 années d'avance sur le cursus normal. Donc, les jeunes gens terminaient leur cours, leur classe à 25 ans, et comme la loi dit que pour être ordonné prêtre, il faut être au minimum dans l'année des 25 ans, ils pouvaient être ordonné prêtre tout de suite après. Mais Grégoire, ça ne va pas, car il a fini ses études avec 2 années, il a que 23 ans.
Alors, évidemment, on ne va pas raconter tout, hein, on ne va pas raconter tout puisqu'il faut venir ici au musée. Néanmoins, il faut parler d'un certain nombre des grands combats de l'abbé Henri Grégoire, et notamment déjà de son combat pour l'égalité des hommes et pour la tolérance pour toutes les religions.
Oui, donc Grégoire va commencer son combat quand il est curé d'Ambermesnil, quand il va écrire son fameux ouvrage, qui comporte un titre bien dur, il est vrai, « Régénération physique, morale et politique des Juifs ». Pourquoi ? Qu'était le Juif en Lorraine ? La Lorraine, terre de haute catholicité, où Rome avait la mainmise, pas question de faire des cadeaux ou des sites, qu'étaient les Juifs ? Donc, en Lorraine, ils étaient très mal considérés, à part ceux qui commerçaient avec les armées ou qui ont commercé avec les armées de Louis XIV, de Louis XV, qui vendaient du foin, de l'avoine, des chevaux, du harnachement, etc. Voilà. Mais les autres n'étaient pas bien considérés dans la région. Voilà. Alors, on sait que en 1791, le 27 septembre, avec ses amis, il va faire voter une loi, hein, il n'est pas seul, il va faire voter une loi qui dit que tous les Juifs de France auront le droit civique et la citoyenneté française. Donc, ils seront électeurs également.
Alors, son combat, il va mener tout au long de sa vie, son combat pour les Juifs, son combat aussi pour les Noirs. On ne pourra pas donner tous les détails, mais il a présidé la Société des Amis des Noirs. Et dans le même ordre d'idées, au moment de la Révolution, c'est lui qui est l'auteur de l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme.
Oui, les hommes naissent, demeurent libres et égaux en droit. Tous les historiens sont d'accord aujourd'hui pour nous dire c'est le curé d'Ambermesnil. Bon, son combat de liberté et d'égalité, on a vu celui qui l'a mené en faveur des Juifs, mais il y a celui en faveur des nègres, hein, comme on disait à l'époque, les esclaves. Ben, il sera encore beaucoup plus difficile, celui-là, car Grégoire va donner 39 ans de sa vie pour aider ces gens-là. Bon, le 4 février 1794, avec ses amis de la Société des Noirs, Grégoire obtient la première abolition de l'esclavage de l'histoire. Cette abolition ne durera pas longtemps, elle durera que 8 ans, puisque en 1802, le premier consul remet l'esclavage au goût du jour.
RCF Jéricho, votre radio locale.
C'est la lutte finale, un combat d'initiés sont les perdants qui gagnent, nos dames émancipées, les médias sous le roi, mon peuple articulé d'un pantin au long bras, faut pas venir pleurer. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé entre nous deux. La tyrannie sous l'étendard sang élevé, entendez-vous dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras, pleurer dans nos villes nos sarcasmes aux armes, aux armes, etc. Que veut cette horde de militaires, de traîtres et de rois conjurés, quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres français quoi ? Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers quoi ? Nos flics soldats mercenaires, alors qu'on est tous étrangers aux armes, aux armes. Et la loi triche, l'imposerie des malheureux. Nul devoir ne s'impose aux riches. Le droit du pauvre est un mot creux. Des preuves qui se ramassent à l'appel. L'égalité n'existe pas. Pas de droit sans devoir, dit-elle. Égaux à la naissance, parfois. Liberté libre. pète et chérit ce qu'on la thune, non que l'odeur. Amour sacré de la patrie et la fraternité se meurt. Et la fraternité se meurt. Aux armes, aux
CF Jéricho.
N'oubliez pas le guide, Pascal Michotte.
Nous continuons notre entretien puisque nous sommes ici aujourd'hui à la maison de l'abbé Grégoire à Ambermesnil avec François Bir qui est président du comité Grégoire. Alors nous essayons d'esquisser un tout petit peu la personnalité de l'abbé Grégoire. Nous avons parlé de son combat pour l'égalité avec les Juifs et avec les Noirs. Ce qui est très très important aussi, c'est son ouverture d'esprit, sa culture scientifique et les grandes institutions qu'il a créées.
Oui, bon, il a déjà, en premier lieu, institué le Conservatoire National des Arts et Métiers. Je ne dis pas créé, je dis institué, car je pense que d'autres, comme lui, y avaient pensé auparavant, notamment Vaucanson. Ensuite, l'année d'après, en 95, il va créer le Bureau des Longitudes. Alors ça, c'est lui qui est à la tête de tout ça. Il va s'entourer de scientifiques, d'astronomes, de mathématiciens, de cartographes, de géomètres, de navigateurs, de dessinateurs. Car en matière de navigation, la France avait 50 ans de retard sur les Anglais. Et Grégoire et ses amis vont combler ce retard en 2 ans et demi.
Non seulement le CNAM, mais allez, dites-le-moi, il y a eu d'autres choses.
Oui, il y a eu, par exemple, le Muséum National d'Histoire Naturelle. Hein, Grégoire se rend compte que les quelques squelettes qui sont là, c'est bien peu, c'est trop peu, car ça aurait une telle importance pour les générations futures que Grégoire va à nouveau demander des sommes énormes à la Convention nationale qui les lui accorde. Et il construit des bâtiments et fait multiplier la surface d'exposition en la multipliant par 5. Il y a également le Jardin des Plantes. Autrefois, c'était le jardin du roi, le jardin royal. Hein, Grégoire avait recensé à lui seul 50 sortes d'épices. Et vous allez voir combien il était toujours soucieux des deniers de la République, car il dit « Nous payons des fortunes pour aller chercher certaines d'entre elles dans des contrées lointaines, alors que les unes ou les autres pourraient être acclimatées près de Nantes, près de Saint-Jean-de-Luz, Bordeaux, etc. » Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ah oui, l'Institut de France, les anciennes académies. Voilà. Bon, la Convention nationale charge Grégoire de rédiger un acte d'abolition des académies, car bien sûr, il fallait faire disparaître toute forme de royauté. Or, quelques jours après, Grégoire rédige ce fameux décret d'abolition et il faut reconstruire. Alors, on va choisir 4 personnes pour reconstruire. Un, c'est l'évêque de Talleyrand, hein, l'évêque Talleyrand, l'évêque d'Autun. Deux, ce sera Mirabeau, mais Mirabeau ne pourra pas mener à bien ses travaux car il va décéder brutalement alors qu'il venait d'être élu président de la Convention nationale. Le troisième, c'est Condorcet et le quatrième, c'est Grégoire. Mais comme Grégoire est un religieux, on se méfie de lui. On va lui flanquer un garde, mais pour bien le surveiller, on choisit un athée notoire. Comme ça, on se dit, avec ce jeune homme, on aura des bons rapports sur le curé d'Ambermesnil et on pourra s'en débarrasser à la première incartade.
C'est aussi, François Bir, c'est le premier écrivain lorrain.
Oui, Grégoire, dans sa vie, aura écrit plus de 250 ouvrages, donc il reste encore aujourd'hui le premier écrivain lorrain. Il a prononcé ou lu aux différentes tribunes dont il a été membre élu plus de 500 discours ou actes, documents dont il a été l'auteur. Voilà. Qu'il a été l'ennemi juré de Napoléon en France, hein, Grégoire qui parlait toujours pour la République, alors que Napoléon, hein, instituait une nouvelle noblesse, hein, l'Empire, voilà, donc ça ne pouvait pas passer entre ces deux hommes.
Il faut quand même parler aussi d'un certain nombre d'amis prestigieux qu'il a eus.
Oui, Grégoire a eu dans sa vie pas loin de 1000 correspondants. Un écrivain nous dit que lorsque Grégoire quitte sa Lorraine natale, il abandonne 241 amis. Non, c'est pas vrai. Ces gens-là, il ne les abandonnera pas. Avec la plupart, il va correspondre encore quand il sera à Paris. Quand il a cet historien nous dit, quand Grégoire arrive à Paris, à Versailles, bien, ce nombre va plus que doubler. Alors, vous voyez, 250 en Lorraine, 500 en Versailles et Paris, on approche les 800, voire les 1000. Bon, je vais citer que quelques noms de grands amis. Lafayette, l'ami de toujours, hein, Lazare Carnot, qui va être aussi un grand ami de Grégoire, puisque les deux hommes vont travailler ensemble au comité d'instruction publique.
Voilà. Au comité d'instruction publique. Il a eu aussi des amis jusqu'aux États-Unis, jusqu'en Amérique.
Oui, bon, à Outre-Rhin, il aura un grand ami, c'est le grand Goethe. Si ses idées n'ont jamais, si Grégoire n'a jamais traversé l'Atlantique, il en est pas de même pour ses idées et ses écrits. Bon, là-bas, comme elle va correspondre avec, notamment, le premier président des États-Unis d'Amérique, George Washington. Ensuite, avec le troisième, le plus francophone, le plus francophile, pardon, des présidents que les États-Unis ont pu compter. Et puis, le troisième, je vais dire les troisièmes, c'est un couple, le couple Barlov. Barlov, grand poète, hein, qui va se lier d'amitié avec Grégoire, car Barlov va venir en France comme agent plénipotentiaire. Bon, les deux hommes habitent dans la même rue, ils se fréquentent. Barlov est tellement épris des idées de Grégoire qu'il va l'accompagner en Savoie lorsque la Convention nationale désigne, hein, 4 commissaires pour aller rattacher le département du Mont-Blanc à la France. Puis Grégoire descendra plus bas dans le sud-est pour créer le département des Alpes-Maritimes.
Alors, on ne pourra pas dire tout. D'ailleurs, on va s'arrêter là sur la vie de l'abbé Grégoire. Je vous incite vraiment à venir découvrir ce musée de l'abbé Grégoire en Berménil. Alors, détail pratique, François Bir, ce musée est ouvert quand ?
Eh bien, il est ouvert tous les dimanches et jours fériés, en après-midi, de 14h30 à... Bon, 18h, en réalité, s'il y a quelqu'un qui vient à 18h15, on les refoule pas, hein, on les accepte. Bon, après, c'est fermé la période hivernale, hein, de la Toussaint jusqu'à la réouverture fin mars, début avril.
Dernier détail, qui n'en est pas un, il fait partie, il est sur la route des abolitions de l'esclavage et des droits de l'homme.
Oui, la route des abolitions a été créé, bon, le premier courrier que j'avais adressé à Michel Dinet à l'époque remonte à fin 98. Le président du Conseil général était emballé par le projet, m'a conseillé d'aller trouver les maires de Champagney et de Fessenheim. Quand je suis allé trouver ces gens-là, ben les deux m'ont dit « Ah, monsieur Bir, il faut ajouter un quatrième site dans votre circuit, c'est le Four de Joux, là où a été interné le général Noir Toussaint à l'ouverture. » Et puis, il y a 3 ans, il y a un cinquième site qui est venu frapper à la porte, ce sont 3 petits villages de Côte d'Or, Chamblanc, Sœur Jalanche, là où est née, où a vécu Sœur Anne-Marie Javouet. Sœur Javouet, si vous voulez, est à l'origine de la création de Mana en Guyane. Mana, aujourd'hui, bah, c'est une sous-préfecture comme Lunéville. Je connais pas l'importance du nombre d'habitants, mais c'est quand même elle qui est à l'origine de cette création-là.
Merci beaucoup, François Bir. Donc, je vous rappelle que c'est un très très intéressant personnage à découvrir et un lieu aussi à visiter, le musée de l'abbé Henri Grégoire ici à Ambermesnil. Merci beaucoup pour cette visite.